France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, des mètres d'étal, des tonnes de marchandises, des milliers d'objets de toute époque, des vêtements par kilo et des visiteurs en nombre. Les braderies, vide-greniers et autres brocantes sont devenues un loisir pour 30% de la population française. Une sortie du week-end que l'on partage en famille, un moment où on se plaît à rêver trouver un trésor au milieu de ces stands tenus par des particuliers et quelques professionnels, un moment où négocier un prix devient une interaction sociale joyeuse, une sorte de jeu, un moment aussi pour faire des économies et éviter le gâchis. Mais comment expliquer le succès de ces vide-greniers? Peut-on réellement y faire de bonnes affaires? Quels sont les pièges à éviter et les conseils à écouter? On attend vos questions au 01 45 24 7000 ainsi que vos notes vocales sur l'application de Radio France. Vous pouvez également réagir par message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le jeudi 5 juin, vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Eva Rock.
Exactement. Hein.
On fait un peu de tri, c'est pour le vide-grenier.
Mais c'est à moi ça.
Mais Denis, c'était déjà ringard à ton époque. Ben.
Mais attends, mais il y a plein de trucs à moi là. Oh non, pas mon Michel Delpech.
Pour un flirt avec toi.
Extrait de la série Fais pas ci, fais pas ça. Et oui, même dans les séries, les braderies, vide-greniers et brocantes ont du succès. Mais comment l'expliquer ce succès? C'est une des questions que nous allons nous poser avec nos invités. Bonjour Vincent Chabot.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel et auteur de livres passionnants Éloge du magasin. C'était sorti chez Gallimard. Et puis le dernier, Sociologie du commerce, c'est chez Armand Collin. J'ai cru voir sur votre compte Instagram, oui, je fouille, pardon, des photos de vide-greniers, Vincent. C'est un lieu que vous fréquentez volontiers?
Je fréquente, pour des raisons professionnelles, à peu près tous les lieux du commerce et notamment les vide-greniers.
D'accord. Et est-ce qu'il y en a dans votre quartier ou que vous aimez fréquenter particulièrement?
Oui, et pour ne rien vous cacher, je participe moi-même à un vide-grenier au mois de juin à la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement.
Quand vous dites participer, c'est que vous allez avoir un stand pour vendre?
Exactement, avec mes enfants et mon épouse.
Ah, génial. Bon, ben on va venir acheter tout ce que vous
bien
pouvez
sûr.
Proposer.
Je vous attends.
Nous allons revenir sur les raisons qui nous poussent à fréquenter ces marchés souvent à ciel ouvert. À vos côtés, Vincent, Zoé Otuki. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Vous êtes couturière de formation, créatrice de contenu, vous êtes passionnée de mode, de friperie, de belles pièces. Vous partagez votre passion sur les réseaux sociaux, vous êtes suivie par plus de 675 000 personnes.
Au total.
Et c'est quand même beaucoup, voilà.
C'est énorme.
Et vous venez de publier un livre magnifique qui s'appelle Vintage et Seconde Main, c'est chez Solar. On va évidemment l'évoquer en largeur. Et puis avec nous également Emmanuel Layon. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Eva.
Commissaire-priseur, historien de l'art et auteur des livres Savoir chiner, un livre en 2 tomes aux éditions Duchesne. Comme Zoé et Otuki, vos livres sont des mines d'or de conseils. Il faut les avoir sur soi pendant qu'on chine. Et puis près de soi quand on est tranquille parce qu'on découvre grâce à vous des dizaines d'histoires. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Eva.
Journaliste, essayiste, fondateur de la Maison Casselli. Dans quelques minutes, je vous donne la parole pour votre chronique Les Français mode d'emploi, mais vous intervenez évidemment quand vous voulez pendant cette émission. Emmanuel Layon, on entre dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Dans votre livre, vous passez en revue un peu tous les objets qu'on peut trouver dans les brocantes, dans les vide-greniers. Et moi, mon œil, évidemment, des formations professionnelles, a été attiré par un chapitre consacré aux vieilles radios. Vous savez, notamment ces transistors des années 50. Si j'en trouve un dans un vide-grenier ce week-end, est-ce que vous me conseillez de l'acheter ?
Alors, il faut faire attention. En fait, il y a un peu, il faut faire un petit tri parce qu'il y a plusieurs générations de postes de radio. La première génération, celle qu'on voit parfois, qui sont vraiment des espèces de grosses machines, de grosses boîtes, on dirait des vieilles calandres de voitures. Celles-ci, elles sont très sympas, elles sont très déco, mais il faut faire très attention au fonctionnement. Souvent, d'abord, elles fonctionnent avec du 110 volts.
Donc on ne peut pas brancher, oui.
Donc on ne peut pas les brancher, sinon elles peuvent prendre feu, donc c'est un peu dangereux.
Oui.
Et puis, elles fonctionnent avec des ampoules. Alors justement, ce ne sont pas encore des transistors, parce qu'à l'intérieur, pour capter les fréquences de radio, on utilisait un système avec des ampoules qui sont un système assez complexe, et qui va être remplacé justement par le transistor, qui lui prend beaucoup moins de place. Et à partir des années 50, on trouve des petits modèles, et certaines créations, notamment celles de l'allemand Dieter Rams, sont plutôt recherchées. Mais les premières générations, elles, vraiment, ça ne vaut pas très cher. Donc, c'est une bonne déco pour,
oui, c'est
pour
ça. C'est un objet de déco. Ouais. À propos de technologie, le matériel hi-fi des années 70, apparaît-il la cote? Et les vinyles avec. C'est vrai, ça?
Oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait exact. En fait, c'est vraiment une tendance de fond depuis maintenant presque, enfin plus de 10 ans. Le vinyle, le disque vinyle est le support de musique analogique est vraiment recherché. Vous savez bien sûr que de nombreux artistes éditent leur musique aussi en disque vinyle parce que le son est plus riche, parce qu'il est chaud, etc. Et bien sûr, pour pouvoir lire ces disques, on a deux possibilités. Soit on achète du matériel moderne, pourquoi pas, soit on s'intéresse vers les machines anciennes, aussi bien les platines, mais aussi les enceintes. Alors, les platines Torrens, Marantz, Dual, Philips, et puis j'en passe, sont bien plus recherchées qu'avant. Il faut faire attention, d'abord, si elles fonctionnent, si les courroies sont bien là, si le diamant est bien là. Il faut apprendre toute une technique qu'on a un peu oubliée parce qu'on ne sait plus le pratiquer, on ne sait plus faire. Mais bon, moi, je sais que mes parents savent très bien. Il m'arrive de leur demander conseil parfois pour changer un diamant, savoir comment est-ce qu'on fait, voilà. Mais ouais, c'est du matériel qui est très recherché. Et moi qui suis commissaire priseur, on le remarque aussi dans nos ventes aux enchères. Dans une de nos ventes, on a vendu une paire d'enceintes Cabas, presque 3000 euros.
Ah oui.
C'était une somme quand même très importante.
Dans votre livre, vous donnez tous les détails pour savoir comment contrôler ce matériel IFI qu'on pourrait trouver dans les vide-greniers. Vincent Chabot, j'ai pris cet exemple de la IFI parce que je le trouvais intéressant. On a l'impression que ces vide-greniers, ils font du passé une nouvelle mode. Vous voyez ce que je veux dire ?
Complètement. Leur succès s'explique par différentes raisons, mais notamment par finalement, ça s'assimile à une réplique à la standardisation, à la modernité. C'est-à-dire que le goût pour l'authentique, les produits anciens, sont véritablement le moteur de ces vide-greniers, de la consommation. Il y a un intérêt pour les objets qui ont une histoire aussi, les livres, les bijoux, les vêtements, les bibelots, qui ravivent des souvenirs de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et puis on se replonge dans un passé sans doute fantasmé, mais en tout cas qui nous fait du bien.
Mais oui, on va reparler de ce sentiment de nostalgie qu'on peut avoir avec les vide-greniers.
L'authenticité, elle est ambivalente, parce que finalement, j'écoutais votre invité, et je me disais finalement, on pense qu'il y a une diversité selon les vide-greniers, mais il y a des constantes sur les vide-greniers. C'est-à-dire que sur tous les vide-greniers, même à l'étranger, on retrouve toujours effectivement une offre homogène. Alors il y a le livre de Laurence Pernoud, J'attends un bébé, des jeux d'enfants, des Pokémon, des livres désuets de François de Closet, et puis effectivement le vinyle de Nicole Croisy ou de Michel Delpech.
Ah oui, mais Michel Delpech, c'est un bon exemple aussi. C'est pareil avec les vêtements, Zoé Otuki, en fait. On retrouve un peu dans tous les vide-greniers le même style de pièces, et surtout, en fait, on fait de ce passé une nouvelle mode. Ça a été des vêtements à la mode, et ils redeviennent grâce au friperie.
Ah bah oui, tout à fait, mais de toute façon, on sait que la mode est circulaire.
Et oui.
Toutes les tendances vont et reviennent, et ça, depuis toujours, finalement. C'est comme il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne savent pas faire la différence entre des vêtements des années 50 et des années 80, parce que dans les années 80, il y a eu un courant stylistique qui a remis la mode des années 50 en tendance, quoi, à la mode. J'ai embêté deux fois mode. Mais par exemple, toutes ces jupes évasées, ces petites chemisiers très colorées nouées autour de la taille, ça c'est typique des années 50, mais c'est revenu dans les années 80. Par exemple, moi j'ai mes petites techniques pour différencier les deux.
Alors comment vous faites ?
En fait, tout dépend vraiment de la matière. Après, il faut vraiment s'entraîner. Moi, je suis sur des vide-greniers et des brocantes tous les week-ends, et depuis 15 ans. Donc, on va dire que je me suis habituée au toucher des tissus, etc. Mais c'est surtout dans les finitions qu'on va retrouver le plus d'indices. Des vêtements des années 50 vont avoir des finitions qui sont souvent faites à la main, parce que beaucoup plus de personnes, notamment des femmes, étaient couturières à la maison, se fabriquaient leurs propres vêtements, alors que dans les années 80,
Vous le voyez à la couture, en fait.
Ah oui, tout à fait. Toutes les finitions, les petites bordures, tout ça.
Vous allez continuer à nous donner plein de conseils comme ça. Je voudrais juste qu'on revienne une seconde sur votre parcours, Zoé, pour comprendre d'où vous arrivez. En 2012, vous avez 17 ans, vous postulez à un stage qui va changer votre vie,
Tout à fait.
Vous rentrez dans une petite maison qui fait de la réparation de vêtements.
En fait, non, pas tout à fait. Donc, moi, j'ai fait un bac professionnel des métiers de la mode, donc pour devenir couturière. Et donc, on avait des stages chaque année, donc en seconde, en première et en terminale. Et c'était sur mon stage, du coup, de terminale, où j'ai trouvé cette petite boutique qui s'appelle Celia Darling, qui est dans le 9e arrondissement de Paris, qui existe toujours, d'ailleurs, et avec... Enfin, je suis toujours très proche de la fondatrice, Celia. Et en fait, j'étais déjà très intéressée par le milieu du vintage, parce que je m'habillais déjà vintage à l'époque. Très honnêtement, c'était une question de finance. Les bacs à 1 euro de chez Fripstar quand on a 17 ans et qu'on n'a pas grand-chose.
Oui, c'est pratique.
C'est hyper bien. Et en fait, j'ai trouvé cette boutique qui est une boutique vintage, donc plutôt haut de gamme, ou pièce un peu rare, niche, mais qui a un petit atelier en arrière-boutique pour en fait faire de la restauration, pour remettre les vêtements en l'état pour qu'ils soient dignes, entre guillemets, d'être vendus, parce que des vêtements avec des trous et des taches, ça arrive. C'est aussi
oui, c'est le ça, jeu c'est de la seconde main, ouais, tout à fait.
Mais justement, c'est pas une fatalité, on ne doit pas les jeter à la poubelle, il y a plein de manières de les réparer, de les nettoyer.
On va
et donc moi, c'est ce que je faisais.
C'est ce que vous faisiez.
Tout à fait.
Et ça a duré 10 ans, cette aventure-là.
Ah oui.
Et voilà, et maintenant, vous êtes à votre compte.
Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux
oui,
sociaux.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, cette histoire a duré 10 ans, une véritable histoire d'amour. Hein. C'était déjà un métier passion à l'origine. J'adorais être dans cette boutique et découvrir des merveilles tous les jours. C'était très, très dur de ne pas craquer et de ramener l'intégralité de la boutique chez moi. Ça, c'était très, très difficile. Et en fait, il y a quelques années, j'ai décidé en fait, de partager mon savoir, ma passion sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai commencé donc, il y a 5 ans, 2020-2021. Et c'est un sujet qui est encore très niche,
oui.
Mine de rien. Le vintage à seconde main, c'était pas aussi répandu que ça l'est aujourd'hui, en tout cas pas aussi fashion, quoi. Maintenant, tout le monde y va, en fait.
Mais oui, et on va comprendre pourquoi, parce que ça a un rapport justement avec le succès des vide-greniers. On va continuer évidemment à décrypter ce succès, braderie brocante. On va aussi vous donner la parole, Jean-Laurent Casselli. Il ne sera pas question de braderie ce matin dans votre chronique. De quoi allez-vous nous parler ?
Je vais parler d'une autre passion française, surtout au mois de mai, c'est la passion des ponts.
Oui, bah oui.
Et des jours fériés. Et je vais parler aussi de ce qu'on trouve sur l'itinéraire de nos destinations de week-end. J'ai nommé les aires d'autoroute.
Et Varro.
Et c'est combien la voiture ?
La voiture, 700 euros.
Grand bien vous fasse.
2 euros.
Ah bah vendu.
C'est vrai ?
Ah vous faites une affaire. Hein. Hop là, merci. 2 euros, je suis chaud.
Sur France Inter.
Et oui, les vide-greniers inspirent aussi le palmachot. Les vide-greniers et autres brocantes sont notre sujet du jour dans Grand Bien vous fasse. Nous en parlons avec la spécialiste du vintage et pas seulement Zoé Otuki, le commissaire-priseur Emmanuel Layon et le professeur en sociologie Vincent Chabot. J'aimerais, chers invités, vous faire écouter un micro-trottoir qui a été réalisé en septembre dernier par nos confrères de France 3.
Ma fille, je l'ai amenée pour montrer un peu ce que nous on mettait, puis elle veut aussi mettre la même chose, donc c'est sympa.
Les prix sont pas forcément moins élevés, enfin ça dépend, mais c'est surtout le style des années 70 et 60 que j'aime plus que les habits de maintenant, quoi.
C'est vraiment une ambiance qui fait que on vient profiter du marché, donc de prendre des pièces, du mobilier, des vêtements, mais aussi on vient profiter d'une ambiance et on vient s'amuser surtout.
On fait un petit tour, on découvre plein de choses, on écoute de la musique qu'on a écoutée il y a quelques années, donc c'est vraiment sympa.
Vincent Chabot, on a entendu beaucoup de choses dans ces témoignages qui racontent beaucoup du succès des vide-greniers.
Encore une fois, c'est une réplique à la numérisation, c'est-à-dire que finalement, la numérisation peut provoquer l'isolement relationnel et on a le goût pour ces événements sociaux, relationnels, etc. Alors, il ne faut pas fantasmer sur imposer une vision enchantée effectivement des relations sociales. Il y a aussi des confrontations, notamment dans la négociation pour le prix. Mais finalement, on n'imagine pas un tel échange économique sans lien social, finalement. Ça commence par le regard. On va regarder la marchandises, on va regarder ensuite le propriétaire, on évalue le propriétaire, est-ce que finalement il correspond aussi à nos goûts, est-ce qu'il est aussi raffiné que nous, etc. Et puis après on discute sur le mode d'emploi d'un produit, comme les radios par exemple, également sur le prix, bien entendu,
ben
c'est-à-dire
oui.
Que le marchandage c'est une norme. Il y a un anthropologue américain, Clifford Geertz, qui avait enquêté à Sefou au Maroc et qui avait justement révélé cette norme du vide-grenier qui est le marchandage. Il faut absolument passer par le marchandage. C'est un rapport de force, mais ça crée du lien.
Oui, c'est ça, c'est un lien social. Même cette négociation du prix devient en fait une interaction sociale.
Les prix ne sont pas affichés, véritablement,
oui.
Et on doit effectivement obligatoirement rentrer en contact avec le revendeur pour négocier et pour échanger.
Zoé Utoki, on a entendu cette dame qui disait « je voulais montrer à ma fille ce qu'on mettait ». Donc ça revient à cette idée de nostalgie qu'on a évoquée en début d'émission. Mais il y a cette idée aussi de transmission, elle est importante dans les vêtements. Et si je vous pose la question « qui est mamie Nicole ?», qu'est-ce que vous nous répondez.
Ah. Alors, mamie Nicole, c'est une histoire qui est très très récente. C'est très honnêtement une personne que je ne connais absolument pas. En fait, très récemment, j'étais contactée par une abonnée qui a connaissance de ma passion pour la marque Sonia Riquel. Sonia Riquel, c'est une marque très ancienne qui a, il me semble, débuté dans les années 70 et que je collectionne depuis des années et des années. C'est vraiment une marque que j'adore. Et une abonnée sachant ça m'a contactée en me disant « voilà Zoé, en fait je t'explique, je me suis occupée d'une personne âgée sur sa fin de vie, donc de manière bénévole. Et elle m'a expliqué que cette personne est malheureusement décédée récemment, de vieillesse, très heureuse, enfin aucun souci pour ça. Et en fait, elle a été contactée donc par la fille de cette personne, qui s'appelait donc Nicole, mamie Nicole, qui lui a dit « voilà, moi je me retrouve avec tout le placard de ma maman, je sais pas quoi en faire, donc si tu veux, viens jeter un œil. » Donc cette jeune fille, y est allée. Et en fait, a découvert avec grande surprise que cette mamie Nicole, qu'elle a toujours connue en pyjama et dans des vêtements de maison de retraite, quoi, était en fait une véritable fashionista passionnée par la marque Sonia Riquel.
Et donc, elle vous a appelé ?
Et donc, elle m'a tout de suite contactée sur Instagram en disant « Zoé, je sais que tu aimes Sonia Riquel, est-ce que tu veux que je t'envoie quelques pièces ?» Enfin, que j'achète quelques pièces, bien sûr. Hein. Elle m'a envoyé des photos. Ah, mais j'ai halluciné, quoi. Et donc, je lui ai fait une commande, mais monumentale. C'était il y a à peine 10 jours, hein. Je les ai reçus il y a 10 jours. Tout me va à merveille. Et en fait, je trouve ça assez fascinant aussi dans cette histoire de transmission, bien que je ne connaisse pas cette fameuse mamie Nicole, de qui je me suis attachée finalement, sans même savoir à quoi elle ressemble. C'est de me dire que finalement, sa passion pour la mode, sa passion pour Riquel, va continuer de vivre à travers moi.
Oui, il y a quand même un facteur mémoire, je dirais.
Oui, tout à fait, exactement.
Dans tout ça. Oui. Emmanuel Layan, est-ce que vous le ressentez aussi, cette relation à la mémoire à travers les objets que vous vendez, que vous estimez ?
Oui, bien sûr, c'est même fondamental. Il y a une petite blague qui traîne comme ça et qui dit que l'objet, on le donne, ce qu'on vend, c'est l'histoire. Et c'est vrai, en fait, parce que ce qui nous intéresse derrière les objets, ce sont les histoires. Alors, objet au sens vraiment très large du terme, mais ça vaut pour les œuvres d'art, ça vaut pour la culture, ça vaut pour les vêtements, ça vaut un peu pour tout. Donc oui, bien sûr, les objets nous survivent. On est là, on les a temporairement dans les mains, et ils passent de main en main, et nous aussi on passe, et puis ils sont un vecteur de transmission très important. Et puis en plus, ils voyagent. Donc, c'est des objets anciens, mais ça peut être aussi des objets d'ailleurs qu'on trouve brocante, ouais. Sur un vide-grenier. C'est un voyage, c'est le tourisme au coin de la rue.
C'est ça.
C'est ça aussi qui est vraiment extraordinaire. Alors, moi, les vide-greniers, je ne connais pas très, très bien. Par contre, les brocantes.
Vous pouvez nous expliquer la différence entre vide-grenier et brocante ? C'est vrai qu'on n'a pas fait ce travail d'étymologie début d'émission.
Pas de souci. Alors, un vide-grenier, ce sont vraiment des parties. Qui vident un peu les affaires qu'ils ont dans leur grenier. Les brocantes, elles, rassemblent un petit peu plus de professionnels. Donc, vous pouvez quand même avoir des particuliers, mais en général, c'est quand même plus des professionnels, des brocanteurs qui viennent présenter des objets qu'ils ont pu chiner eux-mêmes à droite à gauche, mais qui sont des commerçants. Et sur les vide-greniers, c'est plus réservé, on va dire, aux particuliers qui se débarrassent d'objets dont il ne se sert plus vraiment chez lui. Donc, il y a vraiment deux types d'objets assez différents qu'on peut trouver dans un lieu comme dans l'autre.
Et Emmanuel Layan, je reviens sur les histoires que vous racontiez, ces histoires d'objets, en fait. Est-ce que l'histoire confère une valeur particulière aussi à cet objet ? Est-ce que le prix est déterminé aussi par cette histoire-là ?
Oui, tout à fait. Le prix d'un objet, en fait, n'existe pas vraiment. Surtout quand on parle d'un objet de deuxième main. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour connaître le prix d'un objet. Mais le plus important, c'est celui de l'offre et la demande. Et quand on a un objet très rare, mais qu'on n'a pas de demande en face, eh bien, la valeur de l'objet est plutôt faible. Qu'est-ce qui va pouvoir augmenter la valeur d'un objet ? Qu'est-ce qui va valoir ? Qu'est-ce qui fait que l'objet peut être plus recherché ? Ben, ça peut être justement son histoire, son passé. C'est tout ce qui véhicule. Plus il va véhiculer des valeurs qui sont partagées par nous tous, eh bien plus il peut avoir de l'intérêt et être demandé. Très souvent, on dit que le mobilier ne vaut plus rien, que le mobilier ancien de style Louis XV, ça ne vaut plus rien. Bah, c'est vrai que les critères, le goût d'aujourd'hui,
ne correspond pas.
L'histoire de Louis XV et de l'ancien régime, ça ne matche plus vraiment.
Ouais.
Par contre, si vous parlez d'Andy Warhol, du pop art, eh bien là, ça réveille un peu plus
les vêtements d'ailleurs.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait on a vraiment parce que les objets racontent des valeurs et des histoires différentes. Quand on achète une pochette d'un album de Lou Reed ou bien celui avec la fameuse banane d'Andy Warhol pour un disque vinyle, eh ben c'est d'autres valeurs que si on achète une pendule d'époque Louis XV.
Bien sûr, Vincent Chabot.
Et d'autres histoires.
On voit là les deux compétences du brocanteur, trouver évidemment de la marchandise, on en a pas parlé, et puis ensuite c'est la rhétorique, c'est-à-dire construire un discours, une histoire autour du produit, et finalement un bon brocanteur, un bon revendeur, c'est celui justement qui maîtrise cette rhétorique, c'est-à-dire attribuer des nouvelles qualités à un produit, standard parfois, hein, mais effectivement l'histoire, la patine, le temps, etc. vient le valoriser à partir du moment où on sait exprimer cette valorisation.
Vincent Chabot, Zoé nous racontait tout à l'heure la façon dont elle touchait les matières, les tissus, voilà, on a l'impression que c'est aussi une expérience des sens.
Sensible.
Sensible. Vous qui êtes un grand spécialiste, je sais, acheter des livres, et notamment des livres de seconde main, on ouvre un livre pour le sentir. C'est aussi ça, le vide-grenier, c'est... on aime ça aussi.
On aime ça, c'est-à-dire qu'on a un rapport effectivement direct à la marchandise. C'est du libre-service quand même, le vide-grenier, même s'il y a effectivement le regard hein, du revendeur qui contrôle un peu ce qu'il vend sur son stand, mais il y a effectivement une expérience sensible qui est très forte. Moi, j'ai beaucoup travaillé, vous l'avez dit, sur le commerce du livre, et j'ai été toujours frappé par des gens qui disaient, ah bah, on aime beaucoup les librairies pour l'odeur des livres, effectivement, oui. Pour l'atmosphère, et ça, effectivement, alors les spécialistes du marketing ont beaucoup travaillé là-dessus, les lumières, l'odeur, etc., la musique, parfois même, l'ambiance, en tout cas, l'atmosphère, je compte beaucoup dans l'interaction marchande.
Zoé Otuki, est-ce que vous cherchez quelque chose précisément quand vous allez dans une friperie, dans un vide-grenier ou une brocante, où vous vous laissez faire? Et c'est la magie, la magie de la rencontre avec le
Alors,
vêtement.
En général, c'est la magie, hein, comme on disait, c'est une chasse au trésor. On ne sait jamais d'avance sur quoi on va tomber. Et d'ailleurs, le mieux, c'est d'y venir sans idée précise, parce que sinon, on est déçu. Mais après, on va dire que je vais fonctionner, moi, personnellement, par période. Donc, il va y avoir des choses que je cherche plus à certains moments. Typiquement, en ce moment, je suis, alors que ce n'était pas du tout le cas, d'ailleurs, je suis fascinée par tout ce qui est... pré-années 50. C'est vrai que moi, normalement, c'est plutôt l'après. Donc, des années 50 aux années 2000, précisément les années 80. Donc, je suis une immense, immense fan, stylistiquement parlant. Mais en ce moment, j'ai cette petite fascination pour les vêtements qui sont très anciens. Je peux vous donner des petits tips pour en trouver, d'ailleurs.
Ah ben bah oui, parce on que, veut bien.
ça se revend, pour le coup, extrêmement cher hein, sur Internet, hein, parce que...
Hein, les fameux vêtements de pré-années 50, c'est
ah,
ça?
Oui, oui, d'accord. Oui. Bah, on parle de vêtements pré-années 50, ça a plus de 75 ans.
Ouais.
Donc on s'en rend pas compte, mais on parle aujourd'hui presque d'antiquité, en réalité. Et en fait, le mieux pour en trouver, hein, même si certains ou certaines peuvent trouver ça un peu glauque, moi j'aime beaucoup parce qu'on est toujours dans le souvenir, mais justement, sur beaucoup de brocantes, marchés aux puces, il y a en fait des brocanteurs, donc des commerçants qui sont spécialisés dans le vide maison. Et souvent le vide maison...
Quand c'est une personne qui est décédée, généralement.
Voilà, ça apparaît quand une personne décède, généralement ce sont du coup des personnes âgées, qui ont potentiellement vécu ces époques-là, ou en tout cas récupéré des choses de leur mère, de leur grand-mère.
Et qui ont gardé.
Et qui ont tout gardé. Et là par exemple ce week-end j'étais sur les puces de Montreuil, il y a quelques stands qui ont ouvert, bon ce sont du coup des commerçants qui venaient du marché de Bagnolet qui a brûlé, donc maintenant ils sont sur le marché aux puces de Montreuil, donc ils sont tout nouveaux, je les connaissais pas. Je me dis mais c'est rigolo, ils faisaient pas de vide maison avant tant que ça aux puces de Montreuil. Et c'était un monsieur qui vendait littéralement, mais tout avait la même odeur. C'était la maison entière d'une potentielle petite mamie qui était une couturière, puisqu'elle avait une collection de patrons de couture des années 50.
D'accord.
Mais immense, bon, qui était en mauvais état. Je pense que ça traînait dans une cave, donc j'en ai pas pris. Mais elle avait aussi des tissus, plein de matériel de couture et surtout tous ces tiroirs qui suffisaient d'ouvrir. Et dedans, il y avait de la lingerie ancienne. La lingerie ancienne, je la collectionne pour le coup depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc tout ce qui est les nuisettes en soie, brodées de dentelle, des choses incroyables. Et des vêtements très anciens, puisqu'elle était en plus couturière, donc une couturière dans les années 50. Donc c'était le paradis.
Vraiment le trésor, quoi.
Ouais, le paradis.
Mais c'est
paradis.
Marrant parce que cette notion de chasse au trésor, elle est extrêmement importante dans les vides-greniers et les brocantes, Vincent Jabot. Ça fait partie aussi du succès de ces endroits.
Bah, bien sûr.
Parce qu'on peut venir en famille en plus et chacun y cherche l'objet qu'il souhaite.
Il y a trois populations, si vous voulez. Il y a des gens effectivement contraints qui vont pour faire une bonne affaire, notamment pour les baskets ou les vêtements de marque.
Oui, parce
pour les
qu'il y a ce facteur économique
bien
qui
sûr.
Est déterminant.
Ça, c'est la première raison. Il y a des passionnés en quête de la perle. Rare, de collections griffées, etc., dont chaque dimanche est dédié au vide-grenier, finalement. Et puis, il y a entre les deux des flâneurs qui n'achètent pas systématiquement, mais qui peuvent y faire effectivement une découverte, une bonne affaire.
C'est vrai, on disait hors micro, Vincent Chabot, avant de commencer cette émission, que pendant longtemps, les vide-greniers n'avaient pas forcément une très bonne image.
Non.
Et tout d'un coup, il y a eu un effet de mode, non, parce que
revalorisation. Moi, je pense qu'ils ont été démarginalisés à partir des années 80. Il y a un long processus qui s'installe. Ils reviennent au centre, effectivement, alors pour des raisons économiques et écologiques, et puis la passion, effectivement, des étiquettes, des vieux tissus. Dans les années 40-50, c'est soit de la fripe, soit du sur-mesure, finalement, avec le travail des couturières, qui est aujourd'hui beaucoup plus valorisé. C'est encore une fois une réplique à la standardisation, au prêt-à-porter, à fast fashion, bien entendu. Et je crois effectivement que cette démarginalisation, cette revalorisation est aujourd'hui de plus en plus visible, à la fois sur les vides-greniers, mais aussi évidemment sur les plateformes.
Ouais. Emmanuel Layon,
Oui, moi je voulais intervenir justement sur la notion de valeur et de trésor des objets qu'on peut trouver dans les vides-greniers et dans les brocantes, parce que c'est vrai qu'on peut y aller comme ça un peu en dilettante pour chercher des objets juste pour se faire plaisir et puis tomber sur un objet de peu de valeur, mais il y a vraiment des passionnés qui en ont fait presque leur métier, hein, qui se lèvent aux aurores pour être les premiers sur les lieux et faire les premières découvertes, et justement auprès de particuliers qui parfois vendent des objets sur les vides-greniers et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vendent.
Et oui.
Donc, on peut faire de bonnes affaires, c'est vrai, quand on se lève très tôt, mais attention aussi quand on est vendeur sur un vide-grenier et quand on vend la pendule de mamie 50 euros alors qu'elle en valait 5 000.
D'où donc, l'intérêt de faire appel à vos services.
Voilà, c'est vrai aussi, exactement, il faut faire attention à ça et il faut pas oublier que par moment, on peut faire quelques erreurs et vendre. Et puis ça vaut un peu pour tous les domaines, hein, ça vaut aussi pour les vêtements vintage, comme en parlait votre invité. Il y a certaines marques qui sont très recherchées, et il faut faire attention aussi quand on vide l'armoire de mamie, parce que ben, il peut avoir des pièces vraiment uniques qui sont parfois peut-être de la haute couture et des choses auxquelles il faut faire attention. Donc effectivement, il y a des professionnels qui sont là aussi pour vous aiguiller, pour vous aider, pour faire un peu le tri avant de se lancer dans des démarches de vente où on peut faire des erreurs.
Mais je crois que ça vous est arrivé, non, d'avoir un objet où la personne voulait le vendre pas si cher et qui s'est vendu aux enchères des milliers d'euros, non, je me trompe pas?
Oui, exactement. J'ai une cliente en fait qui avait hérité des biens de son père. Il y avait une tapisserie qui représentait des chevaux dans le salon, ça lui plaisait pas trop, elle la met sur le bon coin à 500 euros, elle reçoit une première offre à 600. Alors en général, les négociations sur le bon coin, c'est plutôt à la baisse. Donc là, je pense que l'acheteur a fait une petite erreur en lui proposant plus cher que prévu. Elle en parle à un ami qui lui dit, bah écoute, va voir Emmanuel, il est commissaire-priseur à Bordeaux, il va pouvoir t'aider. Elle vient me voir, je regarde la tapisserie, nous on l'a déjà estimée entre 20 et 30 000 euros, parce que c'était une création très rare d'un artiste qui s'appelle Don Robert, qui a eu enfin une carrière spirituelle et aussi une carrière d'artiste. Et cette tapisserie, finalement, moi je l'ai jugée près de 60 000 euros, donc ça fait une somme absolument énorme. On lui a fait la proposition à 600 euros sur le bon coin. Cette dame, par la suite, a acheté un appartement, où elle passe la moitié de sa vie, puisqu'elle est retraitée maintenant. Elle a acheté un appartement avec cette petite somme sur la côte espagnole. Elle me dit, ça a changé ma vie.
Alors, deux leçons de morale. Un, on ne jette rien. Et deux, on fait toujours appel à vous. On ne sait jamais, ce qu'il y a dans nos greniers. Ouais.
Et méfiance quand on propose plus cher que le prix d'origine.
Ah bah oui.
Parce que la négociation va être à la baisse sur un vide-grenier, etc. Quand on commence à négocier à la hausse, ça, c'est la vente aux enchères et c'est autre chose.
Vincent Chabot, les vides-greniers, vous en parlez, vous utilisez deux expressions que j'aime beaucoup. Vous dites que les vides-greniers, c'est aussi faire relation et faire quartier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Là, je m'appuie sur les travaux de Sophie Corbillet, qui est une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les vides-greniers dans un quartier parisien de l'Est. Effectivement, c'est un temps fort de la sociabilité de voisins, de voisinage. On se connaît, on se reconnaît finalement. On construit ou on ravive en tout cas une identité citadine. Michel de Certeau disait que le petit commerce de quartier, c'est là où le quartier parle. Et bien effectivement, le vide-grenier également. Ouais. Le vide-grenier, c'est l'endroit où le quartier parle, le quartier se parle. Et parfois, effectivement, par rapport à des vendeurs qui ne font pas partie du quartier, on va effectivement les voir plutôt à la marge du quartier et on va les voir comme des intrus. Donc le vide-grenier, comme le marché aussi parfois, construit, solidifie cette identité de riverain.
Je lisais un article du Media The Conversation et ils avaient titré à propos des vides-greniers « Le lien plus que le gain ». Vous êtes d'accord avec ça ? Ou c'est une image un peu idéalisée?
Non, par contre, pour qu'il y ait du gain, il faut qu'il y ait du lien. Ça, c'est évident. La première motivation, elle est économique, il faut le rappeler, quand même, malgré tout. Que ce soit effectivement des gens au budget contraint, mais aussi des gens qui veulent acheter tel ou tel produit, un trench Burberry, par exemple, moins cher. C'est-à-dire qu'il y a aussi le consommateur malin qui est au vide-grenier et le consommateur contraint, comme on l'a dit.
Zoé Otuki, cette dimension sociale, elle participe aussi à votre plaisir de chiner, c'est-à-dire que vous aimez parler avec les vendeurs, à part peut-être avec les autres clients que vous croisez dans vos balades.
Bien sûr, mais c'est hyper important, comme vous le disiez tout à l'heure, on crée du lien aussi. Pour acheter, il faut parler aux vendeurs. Donc toujours par ça. Moi, personnellement, quand les gens sont désagréables, je ne rachète pas.
Bah, ah quoi oui, voilà, par exemple.
Ah, oui, oui, oui.
C'est ça.
Ah, oui. Bon, après, ça dépend. Hein,
s'ils ont une petite robe Sonia Riquel.
Une robe sublime Sonia Riquel à 2,50€, bon, je lui dirais, vous n'êtes pas sympa, mais je vous la prends. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important de connecter. Par exemple, moi, je suis tous les week-ends, sans exception, aux Puces de Montreuil. C'est mon endroit préféré sur Terre.
Et vous prenez toujours autant de plaisir.
Toujours autant de plaisir, ce n'est jamais une contrainte d'y aller. Même quand il pleut, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, j'y serai au moins une fois, que ce soit le samedi, le dimanche ou le lundi, c'est vraiment, entre guillemets, ma safe place.
Mais parce que, est-ce que vous n'avez pas aussi cette peur de louper le truc ?
Ah bah si, toujours, la FOMO, ouais. The fear of missing out. Bon, à la limite, aujourd'hui, enfin, certains week-ends, quand je ne peux pas m'y rendre, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est aussi passionné du vintage que moi et qui y est de toute façon tous les week-ends. Donc, ça m'est arrivé de ne pas y être et qui m'envoie des photos de certaines pièces en disant « Zoé, je sais que ça va te plaire ». Et que je suis là « Oui, non, je fais mon shopping à distance, quoi qu'il arrive ». Mais c'est vrai que cette idée de lien, elle est géniale. Aujourd'hui, je connais la plupart des vendeurs que j'aime beaucoup, qui du coup savent tout de suite quoi me proposer s'ils ont quelque chose.
Et quitte à vous appeler même pour vous dire « Attention, j'ai une pièce rare à te proposer ».
Oui, ça m'arrive. Ouais, enfin, ouais. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des photos en me disant « Zoé, ça c'est pour toi ». Après, j'avoue que moi j'aime aller à la chasse. Quoi. Oui. C'est aussi ça qui me plaît. Donc la facilité dont on m'envoie une photo, oui. Ça me plaît peut-être un peu moins.
Parce que vous avez besoin de toucher, quoi, c'est
oui,
ça.
Exactement.
Et de sentir.
Ah oui, tout à fait. Bah, y a beaucoup de gens qui me demandent parfois « Mais comment t'arrives à dater telle ou telle pièce ?» Alors oui, c'est sûr qu'il y a des tips. Il y a plein de petits tips dans les finitions. À savoir que j'explique très bien dans mon livre,
d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire. Non mais vraiment, c'est hyper pratique. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Franchement, vous nous donnez tous les détails. Mais comme d'ailleurs Emmanuel Layan avec les objets, hein, savoir chiner, c'est tous les deux, vous avez ce souci du détail, mais qui est vraiment facilement compréhensible. Et oui. Ça devient même un jeu pour les gens qui ont...
Bah après, c'était aussi mon but personnellement quand j'ai écrit ce livre, c'était qu'il s'adresse à tout le monde. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, en tout cas depuis très longtemps, depuis l'époque où j'étais encore à la boutique, quand j'étais très peu suivie, mais que j'avais vraiment des passionnés de vintage. Et en fait, mon but, c'est que même quelqu'un qui ne travaille pas dans la mode puisse comprendre ce dont je parle. Parce que, par exemple, des livres sur l'histoire de la mode, moi, j'en ai, mais...
Bien sûr.
Des dizaines et des dizaines. Et très honnêtement, souvent, c'est un peu un télo, pas assez imagé, avec du vocabulaire qui est... par exemple, moi, j'ai toujours travaillé dans la mode, je suis couturière, donc il y a certains termes que j'ai, mais que... Monsieur, oui. Madame, tout le monde n'aura pas. Et donc, ce sont des livres qui sont compliqués à lire. Et le mien, je l'ai écrit et pensé pour qu'il soit simple et que tout le monde puisse comprendre.
Bah, je vous confirme. Je me suis même dit que j'allais essayer de coudre. Je me suis dit.
C'est tout un monde et c'est génial.
On va poursuivre notre voyage au cœur des braderies et des vides-greniers. Mais pour l'instant, il est 10h41 sur France Inter. Jean-Laurent Casselli, c'est à vous.
Regardez seulement, regardez.
Grand bien vous fasse.
Être silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Eva Rock.
Va faire la queue comme tout le monde. Abruti, arrête-toi.
Sur France Inter.
Ça, les Français.
Jean-Laurent, vous avez fait les ponts comme de nombreux Français.
Eh oui, il faut dire que 2025, c'était un super bon cru.
C'était un strike.
Avec trois jours fériés, le 1er mai, le 8 mai et enfin le jeudi de l'Ascension qui tombaient tous les trois un jeudi. Et il y avait de quoi bâtir de véritables aqueducs en posant quelques congés et oui, en faisant sauter un jour d'école. Rappelons que c'est interdit, mais certains parents l'ont fait malgré tout. Alors il y a un signe qui montre clairement qu'une pratique devient un véritable rituel. C'est quand les humoristes s'en emparent. Il se trouve que les ponts du mois de mai sont devenus un sujet récurrent de sketchs et de blagues.
Vous avez déjà expliqué à des anglophones les ponts ? Moi, j'ai dû expliquer ça à mes beaux-parents. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais en mai ?» Je dis « Bah, en mai, je travaille pas. » Ils m'ont dit « Pourquoi ?» Je dis « Bah, je suis français, en fait, on travaille pas en mai. » Ils m'ont dit « Mais why ?» Je dis « Bah, the bridges. On fait des bridges, en fait. » You don't know bridges ? Alors, j'ai pris un calendrier pour leur expliquer la civilisation. Alors, j'ai dit « In France, in May, 10 day, we don't work. » Voilà.
Voilà, in May, we don't work, c'est les bridges, les ponts. C'était l'humoriste urbain. Alors, pour autant, tout le monde n'a pas la possibilité de profiter des ponts. Une moitié de Français auraient posé des congés pour partir en week-end au mois de mai, plutôt dans la famille ou chez les amis qu'en hébergement payant. Ce qu'on sait ensuite, c'est que les trois quarts des Français qui ont fait le pont, qui ont fait un des ponts, sont partis en voiture en cause la baisse du coût du carburant et la crainte des grèves à la SNCF.
Et alors, d'ailleurs, Jean-Laurent, vous vouliez nous faire un petit point route pour le week-end à venir.
Oui, puisqu'avec le lundi lundi de Pentecôte, Eva, qui clôt cette série de jours fériés. Bison futé classe la journée de demain rouge. La semaine dernière, pour le retour du pont de l'Ascension, c'était carrément un dimanche classé noir. D'ailleurs, j'étais sur les routes et j'ai eu l'occasion de constater la mue d'un des lieux les plus déprimants de notre territoire. J'ai nommé les aires d'autoroute. Depuis quelques années, les sociétés d'autoroute tentent de transformer l'arrêt minute à la pompe à essence en une expérience gastronomique, parfois touristique ou folklorique. Exemple, sur la 71 entre Orléans et Vierzon, l'aire qui s'appelait jusqu'à peu Chaumont-sur-Taronne a été repensée pour s'inspirer du territoire. Son nouveau décor s'inspire donc des forêts et des étangs de Sologne. L'aire a changé de nom et se nomme désormais l'aire Cœur de Sologne, un changement qui a même fait l'objet d'une inauguration le 22 mai dernier. On y trouve désormais un restaurant qui propose des spécialités locales comme la tarte tatin salée ou le pitivier. C'est un gâteau aux amandes. Je me suis donc demandé s'il y aurait un jour des aires d'autoroute de destination, comme on parle de restaurants de destination, vous savez, pour désigner ces lieux qui deviennent une véritable attraction et qui déclenchent à eux seuls le déplacement. Alors, au prix du péage, je ne vous dis pas non plus que je prends les autoroutes Vinci ou APRR, uniquement pour manger au McDo ou pour les cappuccinos aux éclats de noisettes caramélisées, qui ont beaucoup d'adeptes. Je dois avouer que je suis devenu un peu accro à ces nouveaux distributeurs automatiques de café, avec leurs recettes dites gourmandes.
Ils sont incroyables.
C'est simple, quand on s'approche d'une de ces machines à large écran tactile, on a l'impression d'être replongé dans notre coffee shop préféré de quartier. Ne manque plus que le barista tatoué et son mini bonnet. D'ailleurs, les tarifs aussi ressemblent à ceux d'un coffee shop. Comptez autour de 3€ pour ces cafés, c'est le prix de la montée en gamme. Alors, à l'heure des franchises de restauration et des cafés d'autoroute, on peut regretter l'époque des restos routiers, bon marché, populaire et conviviaux. Mais pour les trouver, ce week-end, il faudra sortir de l'autoroute et prendre les routes nationales ou bien lire le bouquin de reportage du photographe Guillaume Blau. Il leur rend hommage dans un livre tout récemment paru, intitulé tout simplement « Restos routiers » aux éditions Ebec.
France Inter.
Ouais, ma chérie, c'est vintage. Oh, j'ai acheté ça au plus, un truc de fou. Oh, ça appartient à la gardienne de Kate Moss.
Grand bien vous fasse, Eva Rock.
J'adore parce que ça fait rire. Zoé, tous nos extraits vous ont fait rire, donc je suis contente. C'est un extrait du programme court porté par Camille Cotin-Connasse où il est question de vide-grenier dans lesquels on aime traîner. Emmanuel Layan, j'ai une question d'un auditeur pour vous. Il s'appelle Philippe. Et il nous raconte qu'il a hérité d'une collection de disques 78 tours des années 30 à 50 de musique classique, dont un enregistrement du Boléro de Ravel, de Caruso ou de variétés comme Charles Trenet, Aristide Bruand, etc. Il a contacté des brocanteurs qui lui ont dit qu'il n'y avait pas de demande pour ce type d'objet. Qu'est-ce qu'il peut en faire ?
Effectivement, il est tombé sur la mauvaise pioche parce que c'est vrai que les 78 tours, en grande majorité, c'est très difficile à vendre. D'abord parce que pour les lire, c'est pas facile. Il faut utiliser des machines spéciales ou en tout cas qui ont les trois modes de lecture 78, 33, 45 tours. Et puis les morceaux enregistrés, le son est pas terrible, etc. L'expérience est assez particulière, donc c'est vraiment une niche. Alors attention, c'est pas le cas de tous les morceaux, c'est-à-dire il peut avoir par contre de vraies raretés et de vraies pièces intéressantes cependant, mais effectivement en grande majorité ça ne vaut pas très cher. Et donc alors, qu'est-ce qu'il peut en faire ? Il peut faire des cadeaux par exemple.
Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un spécialiste vers qui il peut se rendre, se tourner ?
Alors, il s'avère que il y a bien sûr certains disques vinyles qui sont très recherchés. Il y a des morceaux, notamment de jazz, mais aussi de rock, qui sont vraiment vraiment recherchés. Il y a des collections qui ont été déjà vendues en vente aux enchères. Nous-mêmes, à Bordeaux, à l'hôtel des Ventourny, on a dispersé deux collections. Oui. On a vendu plus de 40 000 vinyles avec des collections extraordinaires d'un des premiers importateurs de disques dans les années 80-90 qui faisait venir des morceaux. Des disques des États-Unis qui inondaient toute la région de Bordeaux. Et donc là, quand on a des collections comme celle-là, ça se vend très bien. Oui. Nous, il y a certains albums qu'on a vendus plus de 1 000 euros. À France Inter, vous savez aussi, vous-même, la discothèque de France Inter.
Une partie de la discothèque, Inter, oui, est vendue aux enchères.
Une partie tous les doublons en battant plusieurs records. Donc, il ne faut pas hésiter quand on hérite d'une collection. Alors, il faut qu'elle soit assez conséquente quand même. Une dizaine de disques, ça ne va pas. Dès qu'on s'approche proche de 500 à 1000 disques. Là, par contre, faut pas hésiter à faire appel à un commissaire-priseur pas loin de chez soi pour lui dire, ben voilà, j'ai hérité de toute cette collection de disques. Est-ce que dans l'ensemble, il y a une pépite? Comment faire exactement? Et dans ce cas-là, ben, le commissaire-priseur, déjà, peut aider la personne qui a hérité de cette quantité de disques, déjà, à faire le tri et à regarder avec elle, est-ce que la vente aux enchères est une solution qui est adaptée ou pas, ou est-ce qu'il faut faire appel à un marchand qui va racheter l'ensemble de la collection?
Merci Emmanuel Layon pour ces précisions. Vincent Chabot, c'est vrai que parler de ces braderies, de ces vide-greniers, c'est parler de ce qu'on appelle désormais l'économie de la seconde main. C'est un secteur absolument florissant. J'ai découvert les chiffres grâce à vous. Ça se compte en milliards.
Oui, c'est-à-dire que bon, j'appelle ça la reconsommation. C'est-à-dire que finalement, c'était anecdotique, parfois même stigmatisé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'était associé au sale, à la pauvreté, à la souillure, etc. Et depuis 40 ans à peu près, il y a une requalification, une revalorisation. C'est aujourd'hui devenu un marché de masse. En physique et sur les plateformes, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement, il y a la question écologique qui se pose et qui est pour moi une illusion écologique. C'est-à-dire que effectivement, d'un point de vue, voilà, en apparence, on peut se dire, bah tiens, le réemploi, c'est bon pour la planète, etc. Mais on ne rompt pas véritablement avec la société de consommation. C'est pour ça que j'appelle ça la société de reconsommation, dans la mesure où on accumule toujours et le matérialisme est toujours là. Et puis, on ne rompt pas avec la société du neuf et le désir de nouveauté. Et finalement, on cumule les deux, on accumule toujours. C'est aujourd'hui, effectivement, devenu un marché de masse, à la faveur aussi des plateformes et du numérique.
Alors justement, j'ai une question de Julien. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais il nous demande de manière générale, où peut-on trouver les meilleurs prix? Est-ce que c'est dans des vide-greniers ou sur Vinted, Le Bon Coin, Marketplace, c'est-à-dire ces plateformes numériques?
Alors, on négocie surtout dans tous les endroits. Ça, c'est un premier point. Tout dépend évidemment des revendeurs. Si je prends le cas du livre, par exemple, que je connais bien, le livre d'occasion, qui est aujourd'hui effectivement devenu un marché de masse, c'est un livre sur cinq qui est acheté d'occasion aujourd'hui. 60% du marché du livre d'occasion se passe sur les plateformes. On voit que beaucoup d'acteurs des plateformes ont mis en place des algorithmes de formation des prix qui ajustent instantanément le prix à la baisse. C'est-à-dire que si vous mettez le livre X cet après-midi sur Rakuten ou sur une plateforme, eh bien vous allez avoir la concurrence appareillée par ces algorithmes qui vont s'ajuster à la baisse. Donc pour le cas du livre d'occasion, en tout cas, les prix sont plutôt à la baisse, au détriment d'enseignes des bouquinistes ou de Gibert, par exemple.
D'accord. Donc plutôt, quand on veut vraiment avoir, quand on a un problème économique, on va plutôt vers les plateformes.
Vers les plateformes, on peut trouver aussi.
En ce qui concerne les livres,
Exactement.
Je précise.
Pour les livres de collection, c'est l'inverse. C'est-à-dire
que il faut aller chez
les plateformes.
Un spécialiste.
C'est-à-dire que les plateformes ont internationalisé le marché et un Coréen, par exemple, va vous acheter un livre des Fables de La Fontaine un peu décoré. Vous allez pouvoir, à mon avis, charger un peu et lui faire à un prix supérieur.
J'aime bien le terme charger un peu. Zoé Otuki, on constate, c'est vrai, un intérêt grandissant pour ces vêtements de seconde main. Pourtant, j'ai l'impression, on en parlait déjà un peu tout à l'heure avec l'image des vide-greniers, que ce n'était pas forcément gagné. Je suis sûre que vous avez entendu ces phrases « Ah non, c'est sale, ça pue, je ne veux pas de ces vêtements ».
C'est d'ailleurs une des premières, ce que je dis dans la première page de mon livre, littéralement, c'est que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à m'habiller vintage très tôt, pour des raisons simplement financières. Donc à l'âge de 15, 16, 17 ans, donc quand j'étais au lycée, et en plus j'étais dans un lycée professionnel mode, donc les gens étaient très lookés, et c'est aussi dans un but de me différencier un peu des autres. Et à l'époque, mais on pouvait me dire, j'adore ta chemise, tu l'as achetée où? Puis je disais en fripe. Alors déjà, la question, c'était, c'est quoi une fripe? Parce que la vérité, c'est que beaucoup, beaucoup de gens ne savaient pas du tout ce que c'était, ni même que ça existait. En tout cas, que c'était une option. Et quand je leur expliquais ce que c'était, mais c'était... Mais c'est dégoûtant, comment tu peux porter quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà porté? Mais c'est sale, imagine quelqu'un est mort dedans. Ça, vraiment, celle-ci, on me l'a faite. Mais 200 fois. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée, mais... grandissante, toujours plus d'ailleurs, des réseaux sociaux et des gens qui partagent leurs trouvailles, etc. En fait, c'est un intérêt qui a grandi. En fait, à l'origine, quelque chose qui était presque considéré comme honteux ou en tout cas réservé aux personnes précaires, aujourd'hui, ça l'est plus du tout, quoi.
Et est-ce que vous avez l'impression que la dimension écologique, elle rentre aussi en jeu dans le cas d'achat de vêtements?
Un peu. Je pense qu'il y a 4-5 ans, c'est un argument qui était vraiment énormément utilisé pour pousser la seconde main. Mais en réalité, l'un dans l'autre, quand on, comme vous disiez tout à l'heure, quand on se rend compte en fait qu'on continue de surconsommer et que le vrai problème, ça reste de base la surconsommation. Après, moi, je pars du principe quand même qu'on est de toute façon dans une société capitaliste qui va nous pousser à vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, y compris dans le milieu de la mode et surtout d'ailleurs dans
le milieu de la mode,
qui est une des industries les plus polluantes de la planète. Je me dis que tant qu'à surconsommer, puisqu'on l'aurait fait de toute façon.
Autant le faire avec quelque chose qui existe déjà. Ouais.
Après, par exemple, les plateformes donc, numériques, oui, elles sont très pratiques, je trouve, quand on cherche quelque chose en particulier. Personnellement, moi, il y a certaines marques qui sont vraiment niches que je collectionne, donc notamment Sonia Riquel, comme je vous disais, Kenzo, etc., qui sont des marques que j'aime. Je vais effectivement aller regarder sur certaines grosses plateformes. Mais après, le problème, c'est aussi l'envoi. On paye énormément de frais de port, de plus en plus.
Et ça, écologiquement
parlant, c'est un peu bof.
D'accord. Je voudrais vous faire écouter juste un extrait d'une dame qui avait été interviewée au cours d'un micro-trottoir.
Oui. Il y a le fast fashion d'aujourd'hui, il y a le fast fashion avec un E. C'était fast à l'époque. La France, c'était un pays incroyable avec des centaines de marques. Il suffisait de se baisser pour trouver des marques dans toutes les régions de France. Et c'était vraiment de la grande qualité. C'est de la maille, de la bonneterie française, bien épaisse, avec une tenue qui a traversé les décennies. Et à côté, vous avez de la fast fashion sans le E. Et c'est... il n'y a rien. C'est comme... je sais pas, c'est plusieurs sacs en plastique mis ensemble.
C'est exactement ce que vous disiez.
C'est
hein.
Exactement ça. Après, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je pousse les gens à aller vers le vintage, parce qu'il faut quand même différencier le vintage et la seconde main. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Une collection de l'année dernière qu'on a déjà portée et qu'on revend, c'est de la seconde main.
Ouais.
Mais le vintage, c'est ça, une dimension plus ancienne aussi. En général, le petit moyen mémotechnique, c'est 20 ans d'âge. Ça évolue avec le temps, avec les générations. Donc je considère aujourd'hui les années 2000 comme du vintage. Désolée les filles. Mais oui.
Non, mais surtout pour nous, enfin bon, allons-y.
Mais c'est vrai
écoute.
Que en fait, à l'époque, ou en tout cas jusque dans les années 90, pour moi c'est vraiment presque la limite, il y avait comme une qualité qui était tout à fait différente. Enfin, c'est fou de se dire qu'on porte des vêtements. Enfin là, par exemple, sur moi, j'ai ce petit haut qui date des années fin 70, début 80. Il est comme neuf, quoi.
On est d'accord.
La couleur n'a pas bougé.
J'ai une dernière question, Zoé,
oui.
Avant qu'on rende l'antenne. La question la plus stupide du monde, et je m'en excuse par avance. Vous avez une maison de combien de mètres carrés pour mettre tous les vêtements que vous avez ?
Oh là là, celle-ci, on me l'a posée tellement.
Je sais bien.
Alors en réalité, je vis dans une toute petite maison avec un seul placard pour moi et un portant pour mes manteaux. C'est juste que je suis extrêmement forte en pliage. Branchez-vous pliage hein, plutôt que les cintres. Moi, j'arrive à en caler beaucoup plus, mais j'annonce. Et surtout, j'ai un très bon roulement. J'ai la chance d'avoir une cave.
Ah, c'est ça.
Les vêtements d'été à la cave, les vêtements d'hiver en haut et inversement en fonction des saisons.
Merci beaucoup. Avant de se quitter, je voulais vous signaler qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, l'association AIDS propose la grande braderie de la mode. Ça se passe à Pantin, au magasin Généraux. Il s'agit que de vêtements de marque, donc donnés par des marques et les bénéfices sont reversés à l'association qui lutte contre le sida et les hépatites. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission via l'application Radio France. Jean-Laurent Casselli, merci beaucoup. On vous retrouve aux côtés d'Ali Rebeilly d'ici quelques jours. Merci, merci chers invités.
Merci à vous.
La référence de tous vos livres aussi est à retrouver sur la page de l'émission.
Rends bien vous face, un podcast France Inter.